Europe 1, il est 8h.
J'y vais avec cœur, avec engagement, avec détermination. J'y vais pour gagner.
Agnès Buzyn dispose à peine 4 semaines pour tenter de déjouer les pronostics des municipales à Paris. Les coulisses de ce choix dès le début du journal.
L'opposition dénonce un abandon de poste de la part d'Agnès Buzyn. La désormais ex-ministre de la Santé était en charge de dossiers sensibles comme le coronavirus. Votre invité politique à 8h15, Sonia.
Le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, il a participé à toutes les tractations. Pourquoi Agnès Buzyn a changé d'avis en l'espace de 48 heures? Ses réponses dans un quart d'heure.
Qui est vraiment l'homme derrière la chute de Benjamin Griveaux? Qui est Piotr Pavlensky, toujours en garde à vue, ainsi que sa compagne.
L'éditrice de l'activiste russe pense connaître ses intentions.
Pavlensky critique toute forme de pouvoir. Moi, je pense qu'il a réfléchi tout ce qu'il a fait.
Chanteloup-les-Vignes, 3 mois après la nuit de violence qui a touché le quartier de la Noé, nous sommes retournés sur place où les habitants veulent plus que jamais changer l'image de leur ville.
Faut pas stigmatiser Chanteloup parce que moi, je trouve cette ville très accueillante.
Émission spéciale entre 18h et 20h sur Europe 1 ce soir.
Et puis des barreaux et des toiles quand des détenus organisent une exposition à la prison. Visite guidée, pas comme les autres, à la fin de ce journal.
8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Elle a changé d'avis en l'espace de 48 heures. En fin de semaine dernière, Agnès Buzyn assurait encore qu'elle ne serait pas candidate à Paris sur la liste de Benjamin Griveaux, faute de dossiers trop lourds à gérer, comme bien sûr le coronavirus.
Eh bien, Emmanuel Macron, insistant, l'a convaincue de devenir tête de liste en remplacement de Benjamin Griveaux. La désormais ancienne ministre de la Santé s'est lancée hier soir dans la conquête de la mairie de la capitale.
J'y vais avec cœur, avec engagement, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes, il faut les régler avec calme, avec détermination. Je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent.
Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
À peine 4 semaines du scrutin, Agnès Buzyn joue gros.
Ah oui, c'est un saut dans l'inconnu pour l'ancienne ministre, elle qui assumait son envie de faire de la politique depuis l'année dernière et les européennes déjà. La voilà en pompier d'une campagne mal embarquée. Alors vous l'avez dit, Agnès Buzyn a hésité, trop de dossiers chauds sous le bras. Le chef de l'État a fini de la convaincre ce week-end. Ce choix, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé à gagner la capitale, observe un conseiller. Mais le pari est risqué. Agnès Buzyn va devoir composer avec un programme qu'elle n'a pas écrit, avec un dissident, Cédric Villani, avec des candidats qu'elle n'a pas choisis, avec des sondages compliqués. Elle n'est pas kamikaze, elle n'irait pas si elle ne pensait pas possible de gagner, assure un stratège de la campagne qui espère que ce choix va donner un nouveau souffle à cette campagne. Emmanuel Macron, de son côté, salue une décision courageuse. Et pour cause, s'inquiète un conseiller de l'exécutif. Agnès Buzyn était en pleine ascension. Là, elle risque de se couper les ailes en allant perdre une élection. Avec ce scénario, troquer un portefeuille de ministre de la Santé, élément clé du gouvernement, contre un siège de conseillère de Paris.
Adrien Beck, du service politique d'Europe 1. Agnès Buzyn qui laisse plusieurs dossiers très lourds à son successeur nommé hier soir. La passation de pouvoir est prévue à 10h ce matin. Olivier Véran, jusqu'alors député marcheur de l'Isère, également médecin de formation.
Bonjour Christophe Prudhomme.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Agnès Buzyn a donc quitté le ministère de la Santé. Elle était votre interlocutrice dans de nombreux dossiers sensibles. Que pensez-vous de ce départ ?
Bah écoutez, qu'une ministre comme ça change d'avis en 48 heures, alors qu'elle est en charge de dossiers importants qu'elle n'a pas réussi à traiter correctement, ça montre bien que ce qui préoccupe le président de la République, c'est plus la tambouille politicienne que les vrais dossiers qui intéressent les Français. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un véritable problème. Des dossiers importants, la crise de l'hôpital qu'elle n'a pas su résoudre depuis maintenant presque 11 mois, les retraites qui concernent aussi l'hôpital où nous avons la perte de la catégorie active, c'est-à-dire 5 ans de travail en plus minimum pour les aides-soignantes qui n'en peuvent plus déjà à 60 ans. Et elle est remplacée par un monsieur qu'on connaît bien, qui depuis qu'il est en politique, quand il était au PS, il nous a proposé les hôtels hospitaliers pour nous vendre l'ambulatoire. Là, moi je suis urgentiste, il nous propose de nous payer pour renvoyer les patients qui viendraient soi-disant pour rien aux urgences en ville où il n'y a pas de médecin disponible pour les recevoir. Donc vous comprenez qu'on a quand même un certain doute.
Parlons justement, effectivement, Christophe Prudhomme, pour parler des dossiers et du successeur d'Agnès Buzyn, Olivier Véran, vous le citiez, on le décrit comme, on le sait, comme un fin connaisseur de ces dossiers. Pour vous, ça ne suffit pas, ça ne vous rassure pas?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, fin connaisseur? Vous savez, je pense que les questions de santé sont tellement importantes pour la population qu'il ne faut surtout pas mettre un médecin au ministère de la Santé. Parce qu'un médecin sera toujours englué dans des réseaux d'influence, par la défense de la profession. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'organisation de notre système de santé. Ça a été vu dans les différents mouvements. Il y a le mouvement de l'hôpital, il y a les gilets jaunes qui protestent contre la fermeture des hôpitaux de proximité. Et M. Véran, on le connaît bien. Je vous dis, quand il était déjà député du Parti socialiste, eh bien, il nous proposait les hôtels hospitaliers pour pouvoir justifier la fermeture des lits et le fameux virage ambulatoire. Donc vous voyez bien que c'est pour nous, c'est même une provocation. On aurait
mais
préféré
une provocation, une nouvelle, dites-vous. Merci,
oui,
Christophe Prudhomme.
Une nouvelle que ce monsieur que l'on connaît depuis longtemps et qui n'a pas montré effectivement de capacité particulière pour résoudre les problèmes qu'on rencontre.
Merci, Christophe Prudhomme, d'être intervenu en direct dans le journal de 8h.
Ne surtout pas mettre un médecin au ministère de la Santé, nous dit Christophe Prudhomme. La réforme des retraites est l'un des dossiers lourds en cours que le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé va récupérer.
Oui, et Olivier Véran, malgré ce que dit Christophe Prudhomme, n'est pas novice sur ce dossier en tous les cas, puisqu'il a été rapporteur du projet de loi sur la réforme des retraites, un projet de loi étudié à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, et après l'échec des discussions en commission spéciale, retour à la case départ sur le fond du texte, Olivier Samin.
Oui, les députés vont devoir reprendre les 65 articles du projet de loi dans leur version initiale. C'est comme si les travaux de la commission spéciale n'avaient servi à rien. Enfin, presque à rien, puisque les amendements adoptés par cette commission, il y en a eu 21 au total, vont être représentés avec une probabilité assez grande de ne pas être détricotés. Mais c'est peu au regard de tout ce qui reste à examiner. On ne parle pas là des 41 000 amendements qui vont évidemment surencombrer les débats. Rien que sur le fond du texte, il y aura des crispations, y compris dans les rangs de la majorité, notamment sur les points laissés en blanc que le gouvernement veut traiter plus tard par ordonnance, sur l'équilibre du futur régime universel, sachant que la conférence de financement n'aura pas rendu ses conclusions à la date du vote, ou encore sur des sujets pour lesquels le gouvernement n'a pas encore trouvé de point d'atterrissage, la pénibilité notamment. Les consignes ont été données aux députés En Marche, mollo sur les amendements et surtout aucun amendement qui alourdirait le coût de la réforme.
Le projet de réforme des retraites en examen à l'Assemblée dans un contexte politique qui reste perturbé par l'onde de choc de l'affaire Griveaux.
Et au cœur de cette affaire, la personnalité très controversée de l'activiste russe Piotr Pavlansky, toujours en garde à vue avec sa compagne française Alexandra De Tadeo. Les enquêteurs cherchent à savoir si Benjamin Griveaux n'est pas tombé dans un piège élaboré par le couple, oui, mais aussi peut-être par un groupe beaucoup plus large.
Et quel est le projet de Piotr Pavlansky? Jeanne Bergaoui a rencontré son éditrice, Natalia Turin. Elle nous explique les intentions de l'activiste russe.
Pavlansky critique toute forme de pouvoir. Mais là, il a appuyé sur quelque chose qui intéresse beaucoup les Français, le sexe. D'abord, il utilise la méthode qui aujourd'hui est très à la mode. Ça s'appelle une méthode de délation. Et après, il prend quelqu'un qui, pour son image, a décidé de faire comme aux États-Unis. Moi, ma famille, et il l'attaque sur ce thème-là. Pavlansky, je le connais, d'abord c'est un solitaire. C'est un garçon qui n'a peur de rien, parce que la discipline qu'il s'impose, elle est presque religieuse. C'est un garçon qui mange une fois par jour, il n'avale rien jusqu'à 19h, il a une volonté de dingue, il ne fait pas un pas de travers de la ligne qu'il s'est donnée. Moi, je pense qu'il a réfléchi tout ce qu'il a fait.
Et dans ce contexte, une phrase du président Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue. Lors de la conférence sur la sécurité qui se tenait samedi et dimanche à Munich, le chef de l'État français s'est défendu de toute naïveté face à la Russie.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Emmanuel Macron a mis en garde contre les ingérences de Moscou qui essayent de déstabiliser les démocraties en manipulant les réseaux sociaux.
Alors le président visait le Kremlin, mais spontanément, on pense plutôt à l'opposant, Piotr Pavlansky, réussissant à déstabiliser un candidat à la mairie de Paris qui se manipulait tout seul. Est-ce que les démocraties occidentales ont besoin d'un étranger qui vient du froid pour être ébranlé? Le président a passé le week-end à Munich, pile dans l'œil du cyclone pour mesurer le séisme qui secoue l'Allemagne. L'élection annulée en Thuringe démontre que la droite préfère laisser gagner la gauche radicale plutôt que de mélanger ses voix avec celles d'une extrême droite qu'elle méprise. Angela Merkel est désavouée à chaque élection, mais elle se maintient au pouvoir en faisant la politique de ses adversaires plutôt que celle de ses électeurs. Cette coupure entre le pays légal et le pays réel ouvre un boulevard aux furieux.
Attendez, Vincent, c'est cela qui déstabilise aujourd'hui les démocraties occidentales ?
En tout cas, l'émergence des leaders populistes du Brésil à la Hongrie, de Rome à Washington, n'a rien à voir avec les barbouzes médiatiques, numériques. À chaque fois, pourtant, les partis en place cherchent la main de Moscou. Et le comble, c'est qu'ils la trouvent en 2016 aux États-Unis, en 2017 en France, en 2018 en Corée, aux élections européennes en 2019. À chaque fois, des piratages informatiques, des comptes Facebook douteux et le fantôme des services russes. Mais leur influence est nulle et même contre-productive. Des études américaines le prouvent. Les fausses nouvelles ne peuvent convaincre que les plus convaincus. Les sextapes aussi ne peuvent convaincre que les plus convaincus.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures.
Vous restez avec nous dans un instant, direction Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes retournés à Chanteloup-les-Vignes, dans cette commune victime des gangs sur fond de trafic de drogue. La sécurité y est bien sûr la préoccupation numéro 1 en vue des municipales. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
C'était en novembre dernier, l'incendie du chapiteau d'un cirque dans les Yvelines en région parisienne a ravivé les plaies de la commune de Chanteloup-les-Vignes. Confrontés à la violence et aux dealers, les habitants de la ville excédée étaient au bord de l'explosion.
Trois mois plus tard, retour sur place avec ce soir, dans le grand journal du soir, Sébastien Krebs et une émission spéciale entre 18h et 20h depuis Chanteloup-les-Vignes. La ville tente de casser son image de cité délinquante, racontée d'ailleurs dans le film La Haine en 95.
Oui, les habitants veulent mettre en avant d'autres aspects de leur cité, même si la sécurité reste la préoccupation numéro 1 à un mois des municipales. Justin Morin.
Il ne faut pas stigmatiser Chanteloup parce que moi, je trouve cette ville très accueillante.
Ah, monsieur ?
Non.
Jamais qu'il va dire.
Jamais. Ah, bah, pendant combien de temps qu'il n'y a pas de lumière ?
J'ai eu ça l'autre jour.
Pendant 6 mois.
Qu'ils sont... Dans les allées du marché, on débat sur sa ville et avant tout de l'éclairage public de certaines rues.
Si tous les policiers passent, les autres sont derrière, ils recassent. Ils mettent l'électricité, ils repassent, ils cassent. Alors.
Ça a été dégradé sciemment pour favoriser un certain commerce qu'on n'ignore pas.
Trafic de drogue.
Voilà, donc c'est une petite minorité qui embête tout le monde.
C'est la sécurité, c'est ce qui manque. On soit tranquille ici.
Il y a aussi les rodéos en moto, les incivilités, une poche de délinquance composée d'une vingtaine de jeunes qui résistent. La sécurité sera bien une des priorités des deux listes officiellement déclarées. Alors faut-il plus de vidéosurveillance, plus de policiers municipaux ? Le débat est ouvert. Quant au trafic de drogue...
Là, je pense que ça devrait être porté au niveau national, mobiliser d'autres moyens pour venir au secours de cette ville.
Mais les habitants n'ont aussi marre que l'image de leur ville se résume à cela.
Oui, ça, alors là, c'est une belle petite ville. On a un marché, on a le centre médical, on a tout ici.
Ça s'est amélioré, point barre.
Chanteloup, c'est le symbole de la rénovation urbaine enclenchée au début des années 2000. Moins de béton, plus de verdure, on est loin aujourd'hui de la cité d'il y a 25 ans filmée dans La Haine.
Ce qui est bien, c'est qu'ils ont démoli les tours. Ils ont renouvelé les immeubles, ça fait moins un ghetto.
C'est plus joli, puis ça ramène du monde d'ailleurs, c'est mieux.
C'est mieux, mais ça ne suffit pas. À Chanteloup, un habitant sur deux a moins de 25 ans et parmi ces jeunes, un quart est au chômage.
Exemple, chercher du travail pendant un moment. J'ai été au Pôle emploi, mission locale. J'y allais tous les jours, mais si je relançais pas tous les jours, il n'y avait rien qui avançait. On ait des opportunités, qu'il y ait un encadrement, je sais pas.
Fakreddine a 27 ans, a grandi et vit ici. Il gère un camion de sandwich sur le marché.
On n'est pas que des voyous. Moi, par exemple, je suis pas un dealer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en sortir. Je pense que je suis une des personnes concernées par ça. Et je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Après, comme partout, il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide, qu'on les pousse. Mais c'est ce qui manque à cette ville.
Une poignée de médiateurs municipaux sont censés jouer ce rôle. Mais certains grands frères affirment qu'ils ne sont pas assez formés, ni assez intégrés pour être écoutés.
Justin Morin, et notez bien ce rendez-vous, 18h-20h, le grand journal du soir. Première délocalisation d'une série de délocalisations thématiques avant le premier tour des municipales. 18h-20h, Europe 1 en direct de Chanteloup-les-Vignes.
Quand des détenus se passionnent pour l'art et organisent au sein de leur prison une exposition, le centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne a obtenu le prêt par plusieurs musées parisiens de 6 tableaux. Et pardonnez du peu, des Pablo Picasso.
L'aboutissement d'un projet carcéral audacieux. Ce sont les détenus qui ont imaginé cette exposition baptisée « La femme au regard différent ». Des détenus qui jouent les guides pour les autres prisonniers. Marion Gauthier.
Maintenant, on va aller avec Picasso. Alors là, c'est les étreintes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est uniquement basé que sur un trait.
Devant l'étreinte, les corps de deux amants qui s'entremêlent, Xavier, 14 ans de prison, semble ému et tente de restituer en une heure 2 ans de travail sur l'exposition.
Et Picasso, déjà à l'âge de 14-15 ans, il peignait presque comme un maître florentin du XIVe siècle. Il faisait des peintures très stylisées qui étaient d'une beauté extraordinaire.
Comme quelques 70 autres œuvres au cœur du centre pénitentiaire, ici pas de béton ni de barbelés, mais des murs colorés, du parquet au sol et une lumière tamisée. Prince s'arrête devant la maternité, toile d'un saint donné à un enfant.
Je me sens pas en prison, quoi. Mon cerveau, il est ailleurs. Il y a des détenus aussi, mais je fais comme si c'était des gens de l'extérieur aussi.
Vous avez vu donc les femmes combattantes.
Penché sur un exemplaire original de la Déclaration des droits de la femme, Iratxe retrouve sa ferveur militante.
On est des personnes comme les autres. Notre punition, ce n'est pas d'être interdit des cultures, juste des libertés.
L'espoir des commissaires, redonner le goût d'apprendre et d'entreprendre à leurs co-détenus. Pendant la préparation de l'exposition, glisse l'un d'eux, on n'était plus des numéros.
8h16 sur Europe 1. Votre invité politique, Sonia.
Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, député de Paris. Il a participé à toutes les tractations autour du remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn. Mais que s'est-il passé en coulisses pour que la désormais ex-ministre de la Santé change d'avis en 48 heures? Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.